Alexis Sanson. Voici maintenant la chronique philosophico-socio-économo-politico de Jean-Simon Buis. Sa réflexion, sa vision des choses, son grain de sel. Voici un grand moment de radio.
Mon absence de culture musicale m'intrigue un peu parce que c'est pas tout à fait sur ce genre de chanson que je pensais que t'allais me raconter des histoires de pêche. Je vais t'avouer que j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Non?
Absolument
l'histoire
jamais.
L'histoire sans fin, tu sais pas du tout c'est quoi?
Aucune idée de quoi tu me parles.
Never Ending Story, l'histoire sans fin, c'est...
Et ça me dit rien.
Ça me surprend.
Je suis inculte.
Non,
non, mais ça se peut, là. Il y a bien des affaires dans le monde de la musique et du cinéma, là. Moi, je suis pas un grand génie. Là.
En fait, je te dirais que c'est un petit peu normal parce que c'est très, très, très générationnel, l'histoire sans fin. 25-2-2-6, si ça vous parle, l'histoire sans fin. C'est un film qui est sorti à la toute fin des années 1980, 89, si je ne m'abuse. Alors, j'avais un an. Tu comprends, je ne l'ai pas vu à cet âge-là. Mais c'est peut-être le film, si j'avais un film à nommer qui a bâti qui je suis aujourd'hui. En termes d'imagination, c'est l'histoire sans fin.
À ce point-là?
À ce point-là, clairement.
Ça a l'air bizarre, il y a des drôles de bonhommes, là.
Ah oui, c'est plein de bonhommes, c'est hyper fantastique, c'est zéro terre à terre. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Bastien, qui trouve un livre dans un grenier à l'école, un énorme livre, qui commence à lire, puis finalement, il est aspiré dans le monde du livre, où est-ce qu'il y a un dragon qui s'appelle Falcor, des créatures, puis ouais, le chien blanc volant au 25-2-2-6, c'est Falcor, effectivement. Okay. C'est Falcor. Atreyu, avec qui je m'identifiais beaucoup, là, qui était une espèce de cavalier avec le teint basané, donc tu comprends pourquoi je m'identifiais à lui.
Oui, c'est lui.
Il y avait un gros loup méchant à la fin, en tout cas, c'était un film là, qui m'a fait capoter, parce que c'est tellement imaginatif. 1984, merci Vincent.
Bastien, c'est qui lui?
Bastien, c'est lui qui trouve le gros livre.
C'est le champion, ça.
Ouais, c'est un peu comme le héros, tout ça, puis la vieille tortue. Bref, on a plein de gens qui l'ont vu.
Ah ouais, c'est extraordinaire.
Mais quand j'avais 5-6 ans, Alexis, l'histoire sans fin, je l'ai écouté des centaines de fois, honnêtement. J'ai tellement aimé. En fait, c'était vraiment une histoire sans fin.
OK.
J'arrêtais pas de l'écouter, l'histoire sans fin. La chanson en tant que telle, ben, c'est un verre d'oreille, puis elle a été reprise récemment dans la dernière saison de Stranger Things, la série sur Netflix. Quand Dustin la chante avec sa petite copine à distance, à travers l'intercom, puis c'est sur une scène importante, je vous divulgacherai pas quoi que ce soit. Tout ça pour dire que je veux te parler un peu du pouvoir de l'imagination. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais parler d'histoire de pêche un petit peu. Puis je veux qu'on ait une réflexion ensemble sur l'importance de se transporter dans des univers imaginaires un petit peu. Mm-hmm. Tu sais, t'es un pêcheur un peu. J'ai vu passer de quoi sur Instagram dans une chaloupe là.
Oui, ben moi j'aime ça. Là, pêcheur de temps en temps. Je suis pas un grand expert là, mais j'aime bien ça. Là. Dans la chaloupe là, quand tu peux pêcher puis jaser là, c'est le fun.
Puis quand tu pêches un poisson, quand tu racontes la pêche, est-ce que tu as tendance à exagérer un petit peu la taille du poisson?
Ben, il est souvent, mettons, deux ou trois fois plus gros que la réalité.
C'est ça, tout le temps. Puis c'est comme ça, tu sais, on est de même. Puis hey, le poisson se battait, puis hey, je taponnais après, puis là, hey, je tirais avec la canne, puis là, hop, là, il revenait, puis nanana.
Ça, c'est la première fois, parce que la dixième fois que tu l'as raconté, là, l'histoire est encore plus incroyable que la première fois. Là.
Elle est hallucinante, là. Fait que Marcel qui a pêché sa petite truite, là, s'est rendu quasiment un brochet de je sais pas combien de pieds de long qui était légendaire dans le lac où est-ce qu'il a pêché, puis rendu raconter à son petit-fils, l'histoire est passée littéralement à la légende. Parce que c'est plus grand que l'événement en tant que tel, c'est plus grand que l'homme qui l'a raconté la première fois.
Moi, tu sais que je suis un grand fan de Brian Perrault. J'ai lu tous les Amos d'Aragon.
Okay.
Ça, c'est t'sais, pour quelqu'un de terre à terre. Moi, j'ai adoré les Amos d'Aragon.
Ah, tu me surprends.
C'est un univers plus fantastique. Oui. Mais Brian Perrault est un écrivain que j'adore. Puis lui, il a écrit les Contes et légendes du Québec. Puis lire ça, ça fait aucun sens, OK, ces affaires-là. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça part de quelque part.
Tout le temps.
Tu sais, il y a tout le temps un point de départ. Puis là, des fois, je me dis, oh shit, OK, c'est comment ça a décollé cette affaire-là? Mais c'est pas grave parce que ça fascine notre univers québécois. Puis tout le monde a une histoire, là.
Ouais.
Tu sais, celle qui fait du pouce là, dans le parc des Laurentides, là, mais elle a son histoire, elle aussi, là, quand tu passes dans le parc, là, mais il y a l'histoire de ça. Il y a une histoire d'un personnage de partout au Québec.
Ouais, prends la Corriveau, prends la Chasse-Galée.
Exact.
C'est tout basé sur nos réalités, puis ça devient une partie de notre imaginaire collectif. Et ça, c'est important, l'imaginaire collectif, parce que ça fonde d'une société, tu sais. Au fond, là, nos normes sociales, puis la façon comment qu'on fonctionne dans la vie en général, puis nos référents culturels, tout ça est basé sur du vent total. Je veux dire, il n'y a pas de loi physique derrière ça, tu sais. Il n'y a rien qui soutient la culture québécoise. La culture québécoise, c'est pas figé dans le roc. Je veux dire, il n'y a personne. Dieu n'est pas arrivé, en fait, vous serez des Québécois, tu sais, puis vous serez des Allemands, puis vous serez des... Non, non, ça s'est formé au fil du temps. À travers quoi? À travers un imaginaire collectif, puis à travers, justement, cette espèce de ces espèces d'histoires et de légendes qui, de siècle en siècle, ont changé de forme pour devenir des mythes fondateurs à quelque part.
Ben oui.
La mythologie, pour moi, c'est probablement une de mes plus grandes passions, les mythologies, en fait, parce qu'il y en a plusieurs, justement parce qu'on comprend l'être humain, puis on comprend son histoire lorsqu'on consulte les mythes d'autrefois. T'sais, quand Homère écrit, puis Homère, c'est un grand mot, là. Quand on dit Homère, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée... En
fait, pas Homère Simpson, ça.
Non, lui, c'était plus d'eau qu'Homère, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée.
C'est moins philosophique un peu, son affaire.
Un petit peu. Quoique, sur les eBay, des fois, ça peut être un peu philosophique. Mais Homère, en tant que tel, qui est un auteur légendaire, c'est le cas de le dire, parce qu'on ne sait même pas s'il a réellement existé. C'est des recueils qui ont probablement pas été écrits par les mêmes personnes à partir d'histoires qui ont été racontées autour du feu pendant des siècles et des siècles.
C'est pas grave, ça.
Non, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ça démontre qu'il n'y a rien de figé dans le temps, puis il n'y a rien de réellement vrai. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument. Puis, tu sais, ces histoires-là, ça fait partie de quelque chose qui est intangible. Ça fait partie de juste de raconter, puis de raconter, puis de raconter. Puis à quelque part, on les a tous racontées, nos histoires-là. T'sais, tout le monde a raconté une histoire à quelqu'un puis à quelqu'un d'autre. Puis il y a bien des affaires que moi je pourrais te dire que je sais pas d'où ça vient pantoute. Tu sais, je comptais là, un peu plus tôt dans l'émission que j'étais allé au chalet qu'on avait quand on était plus jeune.
Ouais.
Ben il y a bien des affaires au chalet que je me suis fait raconter par un puis l'autre puis finalement je l'ai jamais vu d'où ça venait cette histoire-là. Mais du coup ça m'intéresse pas. J'aime bien mieux croire à l'histoire moi.
Exact. Puis même sur nos souvenirs, tu sais que la mémoire est faillible. C'est démontré que tu sais dans le fond nos souvenirs c'est un ramassis d'impressions, de couleurs, de sons qu'on rassemble ensemble mais qui finalement, n'est pas le reflet de la réalité parce qu'on n'a pas un film. Remarque que dans un épisode de Black Mirror, je ne sais pas si tu connais la série de science-fiction.
Mais oui, c'est excellent.
The Entire History of You, qui est un des meilleurs épisodes dans lequel les gens ont un mécanisme à l'intérieur de leur cerveau qui enregistre comme une webcam tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, ils peuvent avoir une entrevue au travail ou une chicane de couple puis revenir en arrière puis tout voir. Pour ça, ce serait une bonne idée qu'on ait une mémoire à ce point incroyable. Je pense que c'est bon que notre mémoire soit faillible puis qu'on change les trous. Mais bon, ça c'est une autre question. Tout ça pour dire que les contes de fées, les mythes sont importants et je trouve qu'on le perd un petit peu dans notre société. Il y a un livre qui a été écrit par un BDiste qui s'appelle L'imaginaire en déroute. Le BDiste fait depuis des dizaines d'années des ateliers dans les écoles primaires avec les enfants.
Ouais.
Puis à la base, son atelier, c'est très simple. Il donne une feuille de papier à un enfant puis il dit « Dessine-moi ce que tu veux. »
OK.
Avant, il dit, les enfants, ils arrivaient, puis ils me dessinaient un dragon qui crachait du feu, puis un chevalier, puis plein de choses. Puis là, le gars, il dit...
Bonhomme allumette.
Depuis 10 ans... Non, non, mais pire que ça.
Pire que ça.
L'enfant regarde sa page, puis...
Il dit, ben qu'est-ce que je dois écrire?
Il n'y a rien. Il sait pas quoi dessiner, parce qu'on lui a pas dit, dessine un bonhomme, dessine le soleil, puis il pleure. Souvent. Fait que lui, il s'est dit, garde, je vais écrire un livre, L'imaginaire en déroute, parce que c'est problématique. Pourquoi l'imaginaire est en déroute? Peut-être parce que on raconte moins les fameux contes de fées. Les contes de fées standards de Charles Perrault ou encore les contes de Grimm ou tout ça, qui sont en passant souvent un peu violents, là. Tu sais que dans Cendrillon, le Cendrillon original, les belles-sœurs finissent pas juste abandonnées par le prince charmant, ils se font arracher les yeux par des corneilles.
C'est moins le fun, ça.
Non, c'est jamais ben cute. Tu sais, dans Hansel et Gretel, les détails sont assez importants sur la manière dont la sorcière mangeait des enfants. Il y a des contes absolument abominables, OK? Et pourtant, les contes sont importants pour les enfants parce que en plus de former leur imagination, ben ils permettent de comprendre un peu, comment dire, les rôles sociaux. Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le mal?
Ben oui.
Parce que quand tu arrives au monde, quand tu es au monde, quand tu viens au monde, là, tu sais pas c'est quoi le bien, tu sais pas c'est quoi le mal, tu n'as aucune idée comment distinguer un peu la morale qui est encore une fois, une construction des gens un peu, là. Fait que les contes de fées t'aident là-dedans. Fait qu'avoir un rôle clair, mettons, Hansel et Gretel, c'est la sorcière cannibale qui est méchante, ben, ça aide les enfants à progresser. Puis il y a un auteur qui s'appelle Bruno Bettelheim, qui est un psychanalyste, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, qui déjà, dans les années 70, en 1976, disait « Attention, le 21e siècle, un des défis pour nos enfants, ça va être leur imagination. On est en train de les perdre. Parce qu'on compte moins de contes de fées, puis on raconte plus d'histoires qui sont ancrées dans la réalité. »
Et il y a ça, puis tu sais, regarde en arrière de toi, là, on est à Télé-Québec, là, les enfants sont revenus de l'école.
C'est des bonhommes. Et les bonhommes, là, c'est le fun à écouter. C'est intéressant, les bonhommes. Mais t'es voix, les bonhommes. Il n'y a pas besoin d'imagination pour voir
ça,
les bonhommes.
T'as raison.
On lit plus. Puis, d'abord, nous, on lit plus. Puis, j'oserais dire que lire des histoires à nos enfants avant d'aller se coucher, là, ça a un peu plus perdu la cote.
On le fait-tu encore? Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. 25-226, prenez-vous le temps. C'est vrai qu'on est pressé à mort puis tout ça. Est-ce que vous prenez encore le temps? Est-ce que vos enfants vous le demandent encore de vous raconter des contes? Mais pas n'importe lesquels. Bruno Bettelheim dit qu'on devrait raconter les contes de fées, les contes des mille et une nuits, les contes de Charles Perrault. Il dit qu'il y a une raison pourquoi ces légendes-là, ces contes de fées-là, se sont transmis au fil des siècles et des générations. C'est parce que ça parle à notre imaginaire. Ça parle à qui on est comme être humain.
Puis juste de raconter puis d'imaginer quelque chose. Hey, s'il y a bien quelque chose, là, bon, j'ai quand même une certaine imagination, là, mais je pense que je suis assez pragmatique dans la vie. Mais jeune, là, j'ai aimé ça, moi, les lire, tous mes Amos d'Aragon. Je les ai lus au complet, puis je te dévorais ça. Mais aujourd'hui, là, écouter Stranger Things, ça m'intéresse pas. C'est pas pareil de le lire que de le voir. T'sais, c'est pas, pour moi, c'est pas la même affaire. T'sais, si tu lis, si tu te l'imagines, si tu as juste quelqu'un qui te raconte, d'abord, moi, entendre quelqu'un me raconter quelque chose, je trouve ça passionnant. Mais avoir cette faculté-là, puis après ça, ton cerveau, il fait le reste de l'histoire dans sa tête, puis tu te l'imagines. C'est pas pareil comme de le voir, parce que clairement, quand tu le vois, il n'y a plus vraiment place à ton imagination. Là. Ton imagination, il ne crée plus grand-chose. Là.
Exact. Au 25-226, tu vois, il y a des gens qui nous disent tous les soirs une à deux histoires pour leur enfant. Quelqu'un d'autre qui dit une histoire tous les soirs à ma petite fille de 6 ans qui a une imagination débordante. Et Martin dit, les enfants sont de plus en plus parqués devant un écran, devant une télévision, de plus en plus abrutissante. Et c'est pas faux, puis je veux pas lancer la pierre à la télévision en tant que telle, mais je pense pas que pour l'imagination, Caillou et ses successeurs ou la Patte Patrouille...
Ouais, la Patte Patrouille, non?
Non, ait autant d'effet que de se faire raconter un conte de fées ou un mythe ou une légende. Je pense que ça, c'est plus important. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué aussi. Je t'ai parlé de l'histoire sans fin. Ça, c'est celui qui c'est le film qui a bâti mon imagination. L'autre film qui a bâti qui je suis comme personne aujourd'hui, honnêtement, là, puis je me souviens d'une phrase dans ce film-là, je vais te la lire, OK? J'étais à peu près à l'adolescence, j'ai 15 ou 16 ans à peu près. Il faudrait que je retrouve la date exactement, mais on est autour de 2005-2006. C'est un film de Tim Burton qui n'est pas son plus connu de la gang, OK? Il s'appelle Big Fish, la légende du gros poisson. Ça te dit quelque chose?
Non, rien.
C'est l'histoire d'un monsieur qui est sur le bord de mourir d'une maladie chronique. Et puis, son fils, toute sa vie, s'est fait raconter les exploits de sa vie. Puis lui, là, il avait vécu une vie plus grande que nature. D'après ce qu'il a raconté, il a été à la tête d'un cirque avec des gens, des phénomènes de foire. Je pense que d'ailleurs, André the Giant jouait dans ce film-là.
Okay.
T'avais, écoute, des histoires rocambolesques, dont une des histoires qui était l'histoire d'un énorme poisson contre lequel il se serait battu dans une pêche héroïque. Et ce film-là, dans le fond, c'est le petit gars qui découvre peu à peu, en fait, il est rendu à l'âge adulte, que son père lui a menti.
C'était pas finalement
c'était pas exactement des... ça. En fait, tout était basé, il y avait un grain de vérité dans chacune des histoires, comme tu l'as dit. Dans chaque histoire qu'il racontait, il y avait quelque chose de vrai. Sauf que ça avait été enjolivé, c'était devenu plus grand que nature et tout ça. Puis pendant un bout du film, le gars, il s'en veut. Il dit à son père, je t'en veux, tu m'as menti, tout ça. Puis il en veut vraiment à son père. Mais à la fin du film, il réalise à quel point ces histoires-là étaient devenues importantes pour l'homme. Et la phrase qui m'a marqué, puis je te jure, ça me marque encore aujourd'hui, puis dans le métier que je fais, c'est la phrase qui m'a plus marqué au cinéma, puis c'est « Un homme raconte ses histoires tellement de fois qu'il devient ses histoires. Elles vivent après lui, et de cette manière, il devient immortel. » Et ça, je pense que c'est criant de vérité. Faut raconter nos histoires.
Oui.
Quand je parle de nos histoires, je parle de notre histoire comme l'histoire du Québec, l'histoire du monde. Je parle de nos histoires comme les contes, comme les légendes, comme les mythes, sous peine de perdre de la magie. Et ça, de la magie, malheureusement, on en a bien besoin dans notre monde. Mmh. Et je vais finir en citant peut-être Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.
Ah, pas de Saint-Augustin, quasiment. On s'en
rapproche. Non, Antoine de Saint-Exupéry.
Okay,
mais c'est quand même très, très bon.
Oui.
Tous les adultes ont déjà été des enfants, mais la plupart ne s'en rappellent pas.
C'est très bon. C'est très bon. Puis j'ai une autre question.
Vas-y.
Bonus, puis tu vas la trouver bizarre, là. Mais les trois carrés là, qu'il y a sur ta feuille, là, tu fais tout le temps plein de carrés quand tu dessines. Non, mais je suis convaincu qu'il y a un lien. Pourquoi ces trois carrés-là?
Je sais pas. Je n'ai aucune espèce d'idée, mais je griffonne beaucoup sur mes. Je pense que c'est CQFD, ce qu'il fallait démontrer, je pense.
Okay.
Je le sais pas vraiment.
C'est un bon dialecte beaucoup. Intéressant. Ouais. Mais pour bonifier aussi cette affaire-là, Jean-Simon, Tu sais, les réseaux sociaux où on se raconte des histoires, puis on aime mieux croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux que ce qu'on entend dans les médias.
Je voulais pas aller là, mais puisque tu m'aimes.
Mais ça vient de là, pareil.
Ben oui.
Parce que c'est quelqu'un qui t'a raconté ça. T'aimes bien mieux croire quelqu'un que tu connais qui t'a raconté ça que de croire quelque chose que, ah ouais, ouais, j'ai lu ça dans le journal, OK? Ouais, mais mon chum Guy m'a dit l'inverse, lui. Qu'est-ce que tu vas croire? Malheureusement, on va te croire le chum Guy, là.
Et le problème, c'est que contrairement à où les contes de fées te permettent de savoir qui est le vilain, qui est le gentil dans l'histoire, aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, les rôles sont souvent inversés.
Ah oui. Ah, t'as bien raison. Merci, Jean-Simon, pour cette réflexion fort intéressante. On se recroise demain midi.
Oui.
Et on se recroise aussi à la fin de la semaine.
Oui.
Pour cette fois-ci, une question encore plus importante
que celle-ci. Des grandes questions qui changent le destin de l'humanité.
Absolument. On aura l'opportunité de régler tout ça vendredi. Merci, Jean-Simon.